Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je me joins aux paroles de Claudia. C'est une joie de vivre cette journée de cette manière-là. C'est une joie d'avoir pu commencer au bord du lac avec ce beau temps de baptême et de confession. Et puis ce temps finalement d'amitié aussi les uns avec les autres qui nous réunissons, qui nous entourons les personnes qui font ce pas de foi. Et c'était très bon moment de vivre ça avec vous, une forme d'aboutissement. Et c'est bien de se retrouver aussi à plusieurs maintenant pour écouter ce que Dieu a à nous dire et puis continuer cette réflexion sur l'Église, c'est quoi ? Et puis j'ai intitulé ce message « L'Église, c'est quoi ? Ce sont des moments forts ». Effectivement, il y a deux gestes qui restent dans le monde protestant qui sont autant de moments forts. Vous les savez, ces deux gestes, lesquels c'est ? La Sainte Cène et, bien joué, le baptême. Vous n'avez pas le droit de parler trop fort, hein, j'oublie chaque fois. Le baptême et la Sainte Cène, c'est deux gestes en langage théologique, comme ça je fais un peu le théologien quand même de temps en temps. On les appelle des sacrements, c'est-à-dire des gestes qui nous sont donnés de la part de Dieu et qui ont une dimension sainte ou sacrée, c'est-à-dire une dimension spéciale. Et rien que pour ces deux gestes, je dirais que l'Église a toute son utilité. Uniquement pour ces deux gestes, l'Église a toute son utilité et sa pertinence. Et j'aurais envie de dire, j'ai besoin et envie d'aller à l'Église uniquement pour vivre ces deux gestes. Alors c'est vrai que pour la Sainte Cène, on est un tout petit peu en manque, hein, là. On est en train de réfléchir peut-être à des solutions pour partager la Sainte Cène au temps du corona. Il y a des collègues qui essayent. Pour le moment, ce n'est pas encore lancé. Nous, on est encore prudents. Mais le baptême, on a pu le vivre ce matin et c'était une bonne chose. Ces deux gestes où tout notre corps, en tant que croyant, vit quelque chose de fort avec Dieu et avec le reste de la communauté. C'est assez rare. Il n'y a pas beaucoup de gestes dans la foi chrétienne où tout notre corps vit quelque chose. Avec le baptême, on est complètement immergé dans l'eau et on ressort et tout notre corps, toutes nos sensations vivent quelque chose. C'est la même chose quand on prend le pain et le vin, on goûte quelque chose de la présence de Dieu, on goûte quelque chose de sa présence parmi nous. Ces deux gestes où l'un, la Sainte Cène, répète l'autre qui est unique, le baptême. Quand on partage la Sainte Cène, on répète l'engagement que l'on a pris un certain jour, en l'occurrence le 5 juillet pour vous deux, qui a été fait une seule fois. C'est aussi deux gestes qui sont uniques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à d'autres endroits des moments de baptême et des moments de Sainte Cène. Ça n'existe pas. C'est deux gestes qui sont uniques pour la vie d'Église. Donc si on doit définir la vie d'Église, c'est quoi ? C'est un endroit où on se fait baptiser et un endroit où on reçoit la Cène. Ça se vit nulle part ailleurs. C'est ce qui fait la spécificité, l'unicité de l'Église. C'est deux gestes en plus que l'on n'a pas choisi. C'est personne qui a dit, bon alors dans mon organisation Église 2.0, il y aura deux gestes capitaux qui sont la Sainte Cène et le baptême, c'est comme ça qu'on va y arriver. Non, de nouveau, ce n'est pas les croyants qui choisissent, c'est des croyants qui suivent ce que Jésus a déjà fait, qui suivent le chemin que Jésus a déjà tracé. Et Jésus, il s'est fait baptiser. Et Jésus a aussi ordonné à ses disciples, avant de mourir sur la croix, de partager le repas de la Cène et de cette pratique qu'elle devait continuer. Deux gestes que l'on n'a pas choisis et pourtant qu'on est heureux de pratiquer et heureux de continuer à vivre plus de 2000 ans après. C'est des gestes qui durent, hein, ça. Belle longévité, 2000 ans pour ces deux gestes. Ces deux gestes qui sont aussi des moments forts de notre vie de foi. On s'en souvient. Là, je vais vous faire lever la main. Qui est-ce qui se souvient de la date de son baptême ? Certains oui, d'autres non. Moi, je me souviens de la date de mon baptême. C'était le 16 janvier 1995. Alors, je vous rassure tout de suite, on n'a pas fait dans un lac comme ce matin. C'était dans un baptistère à l'intérieur avec de l'eau tempérée. Mais toujours est-il que je me souviens précisément de ce moment-là, ce 16 janvier 1995, Et je peux même dire que j'ai 25 ans cette année de vie de baptisé. C'est pas mal, hein? Un quart de siècle de vie de baptisé, de marche avec le Seigneur, qui sont des, finalement ces jalons qui donnent un peu cette idée de nouvelle naissance. Je suis né en 1979 et une deuxième date importante, je me suis fait baptiser le 16 janvier 1995. Ces deux gestes qui unissent aussi les chrétiens que nous sommes, les uns aux autres et à Dieu. Tous les chrétiens ont passé par le baptême. Alors évidemment, vous savez, il y a différentes formes de baptême, baptême des nouveau-nés, baptême des adultes, mais ce n'est pas ça qui nous divise. Et tous les chrétiens, à un moment ou à un autre, et sous des formes différentes aussi, prennent la Sainte Cène ou la communion ou l'Eucharistie, mais tous les chrétiens, on se réunit autour de ces deux gestes. Donc ils sont vraiment identitaires. Ils sont vraiment des caractéristiques fortes de qui on est en tant que chrétien. Ces deux gestes qui disent notre attachement à Dieu et à notre volonté toujours réaffirmée, parce que normalement on prend la scène régulièrement, chaque dimanche, de suivre Jésus et de laisser son Saint-Esprit guider nos vies. Et ces deux gestes centraux qui influencent notre vie de croyants et de croyantes. Deux gestes qui disent notre appartenance en même temps que notre dépendance à Dieu. On reçoit le baptême comme on reçoit la Sainte Cène. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on la faisait encore en mars dernier, il y a des personnes qui sont là, devant, qui sont destinées au service de la Sainte Cène. Ce n'est pas quelque chose qu'on décide par soi-même, c'est quelque chose qu'on reçoit. Et le baptême, ce matin, vous l'avez reçu, en l'occurrence de ma part et de quelqu'un d'autre, encore dans l'Assemblée ce matin, mais vous l'avez reçu, vous vous êtes fait baptiser, vous n'êtes pas baptisé par vous-même. On reçoit quelque chose de quelqu'un d'autre. Et nous, en tant que pasteurs, en tant que personnes responsables, on est simplement des transmetteurs de ce Dieu qui nous donne et qu'en tant que croyants, on reçoit. On est des simples transmetteurs. Et ces deux gestes qui se retrouvent depuis les débuts de l'Église dans le Nouveau Testament. Et ce matin, on va méditer un passage qui se trouve dans l'Épître aux Philippiens, puis j'ai fait quelques photos, là c'est des photos de l'année passé, ou il y a deux ans, je ne sais plus. C'était deux personnes, vous reconnaissez certaines personnes connues sur ces images. Et puis la Sainte Cène, ça c'est la Sainte Cène au temps du coronavirus, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu cette image. Je la trouve assez excellente, comme ça. La Sainte Cène par Zoom, nous on a fait les apéros par Zoom, et puis quelquefois aussi la Sainte Cène chacun chez nous, mais c'est de se dire, malgré tout, on est réunis autour de la même table avec ces petits carrés. Le texte qu'on va méditer ce matin, il récapitule d'une certaine façon ces deux moments forts. Il dit notre attachement, notre dépendance à Dieu, que l'on illustre et qu'on manifeste à travers la Cène et le baptême. Et puis c'est le texte, je pense, la partie finale du texte qu'on avait médité, c'est un des textes les plus anciens de la foi chrétienne. L'épître qu'on va méditer, c'est l'épître aux Philippiens. Et toute la première partie, c'est un apôtre qui la compose, c'est l'apôtre Paul, qui a fondé plusieurs églises, et puis qui écrit à ces églises une fois qu'il les a fondées pour les affermir dans leur foi. Et la deuxième partie, ce n'est pas écrit par Paul, on le pense, que c'est écrit par des croyants anonymes qui ont voulu chanter une louange, un hymne, à Jésus par rapport à ce qu'il avait fait dans leur vie. Et Paul le reprend tel quel, en un bloc, en disant « ça, les amis, c'est le centre de notre foi ». C'est ce que les premiers chrétiens, vraiment les tout premiers chrétiens, ont compris de ce que c'était la foi chrétienne. Et c'est les versets 6 à 10 que nous allons lire maintenant. On les a déjà médités jeudi soir dans la rencontre de prière que l'on a eue. Et je vous invite à écouter. Si vous voulez fermer les yeux, vous pouvez fermer les yeux. Si vous voulez suivre derrière moi, vous pouvez le faire. Écoutez la parole. Le Christ vous rend plus fort. Son amour vous donne du courage. Et son esprit vous unit. Vous êtes plein de tendresse et de pitié les uns pour les autres. C'est vrai, n'est-ce pas ? Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Ça ne vaut rien. Au contraire, soyez simple et pensez même que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Et là commence cet hymne, ce chant à la gloire de Dieu. Car lui, il est l'égal de Dieu. Parce qu'il est Dieu depuis toujours. Et pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Et il a obéi jusqu'à la mort, et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors, tous ceux qui sont dans le ciel, tous ceux qui sont sur la terre et chez les morts, tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci. Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Tous reconnaîtront ceci. Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. C'est notre base d'appartenance. C'est là que tout se joue et c'est pour ça que méditer ce texte d'un jour de baptême, ça a une grande signification. Si on décide de se faire baptiser, si on décide d'aller de l'avant avec Jésus, c'est qu'on reconnaît Jésus comme notre Seigneur. Et ça, on peut le reconnaître personnellement, uniquement personnellement. Nul groupe ne peut nous forcer à reconnaître cela. Et ça, on y tient fermement. Ce choix se fait dans la totale liberté des consciences de chacune et chacun. Il n'y a aucune pression qui doit être exercée là-dessus. Et ensuite, cette appartenance, on se rend compte, puis on le savait déjà un tout petit peu avant, que d'autres la partagent aussi, que d'autres reconnaissent la même chose que ce que nous, on a décidé au plus profond de notre conscience. Et là, on fait corps et on se rend compte qu'on est tous ensemble à reconnaître ceci, que Jésus-Christ est notre Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui règne, c'est-à-dire celui qui dirige d'une certaine manière. Il dirige la vie, et la vie du croyant en particulier. Donc de se mettre sous la seigneurie de quelqu'un, se mettre sous l'autorité de quelqu'un, ce n'est pas un geste anodin, c'est un engagement fort, un signal décisif. Et pourtant, quand on parle d'un Seigneur, on ne s'attend pas vraiment à la description qui nous en est faite dans cet hymne. On s'attend à quelqu'un de dominant, voire même de dominateur, quelqu'un qui aime le pouvoir et qui aime l'exercer sur ceux qui ont décidé de le suivre. Et là, on se rend compte qu'avec Jésus, c'est un poil le contraire qui se passe. C'est beau, c'est bien différent de notre imaginaire de ce que c'est un Seigneur où on devait être totalement à sa merci. C'est complètement le contraire qui se présente avec Jésus, puisque de son trône du ciel, de créateur, de maître de tout l'univers, il décide consciemment de laisser tout cela et de venir nous rejoindre dans notre réalité, dans notre condition, et même dans notre réalité la plus fondamentale, celle de la mort. Et ça, c'est unique comme geste dans toutes les religions que vous pouvez essayer de comparer au monde. Il n'y a aucun Dieu qui a décidé de venir s'abaisser jusque dans notre réalité la plus fondamentale, celle de notre condition humaine mortelle. C'est pour ça que le texte insiste bien sur le fait qu'il a obéi jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Parce qu'il y a bien quelque chose qui nous caractérise, c'est de devoir payer des impôts et de mourir, on dit, généralement. Ça, c'est si l'être humain, c'est quoi ? Ça pourrait être une définition. Jésus, on ne sait pas s'il a payé des impôts, il a dit qu'il fallait rendre à César ce qui appartenait à César et à Dieu ce qui appartenait à Dieu, donc on peut supposer qu'il est aussi allé dans cette direction-là, mais surtout, blague mise à part, il nous a rejoints jusque dans notre condition qui nous caractérise le plus et qui d'une certaine façon nous fait un peu peur quand même, celle de l'amour. Il nous a rejoints jusque-là, c'est-à-dire à quel point d'intimité il nous rejoint dans nos peurs, dans qui on est vraiment, sans tous nos masques sociaux. Il nous rejoint là où ça vibre, là où peut-être on est insécure et on se demande quoi faire. Et je crois que les premiers chrétiens, ils l'ont très bien compris, et c'est ce qu'ils nous lèguent comme testament pour nous dire l'Église c'est quoi ? C'est de donner sa foi à ce Seigneur. Et on a médité un texte en préparant le baptême qui nous parle de cet accompagnement jusque de l'amour qui se vit de manière spéciale avec le baptême. C'est dans l'Épître aux Romains, les versets 3 et 4 du chapitre 6, qui nous dit « Vous le savez bien, notre baptême, en nous unissant au Christ Jésus, nous a tous unis à sa mort. Et donc, par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort, mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort pour que nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. » Et puis, l'image qui était en illustration avant pour montrer ce culte de baptême, pour illustrer ce culte de baptême, c'est une image qui a été prise, je ne sais pas si vous avez remarqué, sous l'eau, et puis on voit la lumière qui scintille, la lumière du soleil qui passe à travers l'eau. Et puis je crois que ça nous dit bien ce que c'est le baptême, c'est de se dire on plonge dans cette mort, mais on sait et on a cette confiance de la résurrection, c'est-à-dire de la vie qui va venir nous remplir complètement. Et puis même cette situation que l'on vit actuelle, cette situation du fameux coronavirus qui nous handicape dans beaucoup de domaines, et notamment dans notre vie d'église, il ne faut pas se le cacher, ça m'a fait tilt en me disant, est-ce que ce n'est pas une situation là aussi d'abaissement ? Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un temps d'abaissement finalement, où on doit descendre d'un cran peut-être dans notre vie de foi, s'abaisser comme le Christ s'est abaissé ? Ce n'est pas une foi de la facilité, c'est une épreuve qui nous est imposée, mais je crois que là, notre appartenance au Christ, elle peut s'avérer vraiment décisive. Si lui, il s'est abaissé jusque dans la mort, je crois qu'il peut nous accompagner dans cet abaissement qu'on est en train de vivre avec le corona. Avec cet abaissement, parce que c'est une épreuve, ça nous affecte, ça nous montre nos limites. Et je crois qu'en mettant notre foi au Christ, qui s'est abaissé jusque dans la mort, on peut vivre cet abaissement de nos capacités relationnelles, en étant sûr de sa présence et en étant sûr qu'à un moment donné, on va se relever complètement. On ne va pas se relever de manière semi-confinée, on va se relever complètement. Cette confession de foi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle se vit aussi au futur. Ce que nous reconnaissons aujourd'hui, c'est comme un peu l'avant-goût de ce qui va se manifester pleinement à la fin des temps, lorsque tous reconnaîtront ceci, que Jésus est Seigneur. Actuellement, ce n'est pas encore vraiment le cas. Si on regarde notre société, j'ai encore lu hier que l'Église d'Allemagne, par exemple, avait perdu X dizaines de milliers de membres juste l'année dernière. On se dit, bon, ben, tous reconnaîtront la gloire de Dieu et son seigneurie. Voilà, connaît-il vraiment ? Donc, ce que l'on fait en se faisant baptiser, en prenant cet engagement, ce que l'on a déjà fait par le passé, c'est aussi un signe qui nous dit que dans le futur, il y aura un accomplissement total de ce que Dieu a voulu pour sa création. Cette force d'engagement, elle puise ses racines dans un geste d'il y a 2000 ans et qui va avoir sa pleine réalisation à la fin des temps. On ne sait pas exactement quand, puis de toute manière, ce n'est pas ça l'important. Ce qui nous importe, c'est de se dire que l'engagement qu'on a, il a en lui-même, il contient en lui-même une force qui va jusqu'à la fin des temps. Et ça, ce n'est pas rien. Ça nous encourage, dans un monde qui est quand même largement incroyant, de se dire que notre position de croyant a une force qui va se déployer, une force qui est contenue en elle et qui va se déployer complètement à la fin des temps. Alors l'Église, c'est quoi ? C'est vraiment être unis avec un grand S, j'ai mis, parce qu'on est des millions à être unis, et on est des millions à se réunir ce matin, unis à Christ, et c'est cette appartenance à Christ avant toute autre chose. Jésus-Christ est notre tête. Et c'est cette idée-là qui est exprimée par cette photo, pour dire on s'agenouille devant cette tête, on se met à la suite de ce Christ qui est notre tête, le corps qui est l'Église. Ensuite, ce texte biblique nous en dit beaucoup sur le comment vivre l'Église. On a dit qu'il y avait cette appartenance. Oui, on est beaucoup à être unis, unis avec un grand S. Et je crois que c'est assez inspirant, puis Annie, tu l'as un peu dit dans ton témoignage, de se dire que dans l'Église, on peut essayer de s'inspirer les uns les autres sur le comment on vit les choses ensemble. Et puis, là, Paul nous donne des pistes qui sont assez intéressantes. Qui sont assez intéressantes, mais qui sont aussi peut-être presque un peu troublantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre propre intérêt, mais cherchez l'intérêt de l'autre. Pensez que, voilà, on se met plutôt en dessous qu'en dessus. Ce n'est pas des gestes qui sont monstres naturels pour nous, êtres humains. Ce n'est pas ce qu'on nous est encouragé à faire. Et pourtant, c'est ce qui nous est encouragé à faire dans ce texte. On peut être submergé par la tâche et puis se dire ce comment finalement, c'est beaucoup trop loin pour moi, je ne vais jamais y arriver. Autant arrêter tout de suite et puis être cohérent avec qui je suis vraiment, ben, ça ne va pas le faire. Et c'est là que, d'après moi, il nous faut bien comprendre quelque chose parce que sinon, on va rapidement faire fausse route. Paul nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ou conduisez-vous, au verset 5, comme des gens unis au Christ Jésus. Le Christ ne nous a apporté ni un catéchisme, ni un exemple, mais il nous a apporté un salut. Un salut qui nous renouvelle tout entier. Cette phrase, je la dois à un théologien qui s'appelle Alphonse Maillot, que j'aime bien, je vous la répète. Le Christ ne nous a apporté ni un catéchisme, ni un exemple, mais un salut. Un salut qui nous renouvelle tout entier. Et ça change toute notre perspective si on essaye de réfléchir comment est-ce qu'on va essayer de vivre cette nouvelle appartenance? Parce que si on essaye, en plaçant Jésus là, et puis moi là, puis de se dire, ouh, mais regardez le trou que j'ai à combler pour essayer de vivre la même chose, il n'y a qu'une seule issue, c'est le découragement. Par contre, si on pense que ce Jésus qui est toujours là au niveau de l'exemple et du comment nous allons vivre notre foi chrétienne, il vient me rejoindre, il m'apporte son salut, qui me fait grandir avec lui, ça change pas mal la donne. Hein? Ça change même, je dirais, toute la donne. Ce comment, on est tenté par sa difficulté de le laisser un peu de côté, de se dire finalement c'est trop compliqué, autant être cohérent avec nous-mêmes, puis se dire finalement c'est pas vraiment pour moi. Ce serait faire fausse route parce que tout le Nouveau Testament, et je suis assez impressionné de voir cela, tout le Nouveau Testament insiste que notre témoignage, le premier témoignage qu'on peut donner, c'est sur notre manière qu'on a de vivre ensemble en tant que chrétiens. Soyez unis, soyez bons les uns avec les autres, bienveillants, on l'a vu, considérez l'autre comme étant meilleur que vous. Jésus, il nous demande de témoigner par notre manière d'être ensemble. Ça arrive des centaines de fois, vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez un encouragement continuel dans cette direction. Et Paul le fait là de manière évidente dans cette lettre aux Philippiens. Et souvent, c'est un peu comme une chape de plomb pour nous les chrétiens. On se dit, mais impossible, ce comment, il est au-delà de mes forces. Et je crois que de comprendre cette réalité du salut, que notre but, ce n'est pas d'avoir des objectifs pour monter là, mais c'est de prendre vraiment, chaque jour qui commence, Jésus avec nous, pour qu'il nous élève dans cette réalité. C'est la seule et l'unique voie pour essayer de vivre ce comment. Ce n'est pas de se dire comment je vais faire pour arriver là, c'est de se dire comment est-ce que je vais m'ouvrir et me rendre disponible pour monter et grandir avec le Christ. Et c'est, je crois, ça le but de l'Église, c'est ça, cette illustration qui nous dit « J'ai besoin d'être à genoux devant toi, Seigneur, pour recevoir ce salut qui vient de toi. » Il n'y a rien de tragique, je ne sais pas quoi, il y a quelque chose de naturel où se dire, je ne vais pas y arriver par mes propres forces. Seigneur, à genoux, j'ai besoin de toi. Et je crois qu'on dit beaucoup de nous en tant que croyants, et on dit beaucoup de nous en tant que croyants réunis au sein d'une même église, en simplement nous mettant à genoux les mains ouvertes pour recevoir de Jésus ce qu'il a à nous donner. L'église, c'est quoi ? C'est avoir Jésus à sa tête et c'est bénéficier de son salut qui va nous influencer, qui va nous inspirer et qui va nous donner la force d'aller de l'avant. Alors c'est ce que j'aimerais nous laisser, particulièrement à Valérie, particulièrement à toi Catherine, de se dire, goûtez le plus régulièrement possible et goûtons le plus régulièrement possible à ce salut qu'il nous a offert en Jésus-Christ. Ce salut qui est marqué de manière forte par le baptême et qui va nous pousser, nous faire grandir à être des personnes qui peuvent appliquer cet amour qui nous est demandé, cet amour du prochain qui paraît si compliqué, mais avec Dieu qui nous permet d'avoir une perspective. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et conduisez-vous comme des gens unis au Christ. Le Christ ne nous a apporté ni un catéchisme ni un exemple, mais un salut, et ce salut qui nous renouvelle tout entier. Alors en tant qu'Église, on peut prendre cette image où on se réunit autour de la croix, parce qu'on se réunit autour de celui qui nous donne le salut. Et je termine en vous montrant cette image, parce que je la trouve assez jolie dans ces temps un peu oppressants, de trouver cette simplicité et cette joie de vivre la foi, un peu comme cet enfant qui joue au ballon. Ce n'est pas une succession d'actions à faire, c'est cette forme de joie qui vient de Dieu parce qu'on reçoit tout simplement ce salut qui vient dans nos cœurs. Et quand je suis tombé sur cette photo, je me dis qu'il y a quelque chose de fort là derrière. La foi, ça peut être cette forme de relation avec Dieu qui nous donne cette simplicité de cœur, de vie, qui va faire des ravages, je l'espère, positifs autour de nous. Alors soyez bénis, mes sœurs, soyons tous bénis dans notre parcours avec Christ qui nous offre le salut. Amen.